Les chroniques du vivant de Corinne.
Bonjour à toutes et à tous. Notre chronique est celle du vivant, de tous les vivants. Mais ce vivant se trouve également sous nos pieds, dans les sols, ces grands oubliés que l'humain piétine, malmène, dévaste, bétonne et stérilise à grande échelle. Ces sols qui nous portent et nous nourrissent, nous les sacrifions trop souvent sur l'autel des profits colossaux générés par le productivisme, l'extractivisme et l'urbanisation galopante de nos territoires où la biodiversité aurait tant besoin de respirer et de s'exprimer. Est-il donc bien nécessaire de rappeler les fonctions des sols ? Certes oui, car tout ce qui œuvre à leur destruction ou à leur artificialisation semble oublier les services inestimables qu'ils nous rendent et qui sont pourtant essentiels à notre survie. Rendons d'abord hommage à tous les invisibles. Selon la FAO, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture rattachée à l'ONU, un quart de la biodiversité totale de la planète habite les sols. En effet, les sols fourmillent de vie. Petits mammifères, microfaunes, vers, bactéries, champignons, myriapodes, insectes, collemboles et encore bien d'autres y interagissent et sont à l'origine de leur fonctionnement. Rappelons que, toujours selon la FAO, seulement 1% des espèces qui les peuplent ont été identifiées à ce jour. Les sols et toute la biodiversité qui les peuple contribuent notamment à l'atténuation du changement climatique. Les sols, en effet, captent plus de CO2 que ce qu'ils en émettent, toutefois, bien sûr, lorsqu'ils sont sains et que la décomposition microbienne est préservée. Ils contribuent à la prévention de l'érosion, au stockage et à l'acheminement de l'eau dans les nappes souterraines, à son filtrage et à sa purification, en dégradant les nombreux polluants que l'homme lui inflige. Par leur absorption de l'eau, ils diminuent les risques d'inondation. Ils nous fournissent 95% de notre alimentation en étant le support de l'agriculture, mais aussi à celle de tous les autres vivants de la planète. Ils permettent le recyclage et la transformation de la matière organique qui permet une fertilité riche pour les productions agricoles. Selon France Nature Environnement, ils nous fournissent également 80% des antibiotiques que nous utilisons, issus notamment des champignons et des bactéries qu'ils renferment, comme la pénicilline, la malicidine. Enfin, et j'allais dire pour leur plus grand malheur, ils servent aussi de matière première aux constructions. Bref, sans les sols, nous ne pourrions survivre sur de la roche mère nue. Et gardons à l'esprit qu'il faut plusieurs milliers d'années pour constituer un sol. Environ 200 ans, voire plus, pour constituer un centimètre de sol. C'est dire. Pourtant, l'humain fait le choix d'étendre toujours davantage sa prédation sur les espaces naturels à grand renfort de béton, infrastructures routières, méga-entrepôts logistiques, centres commerciaux, constructions effrénées d'habitats, grands projets bien souvent inutiles. Et c'est sans compter l'artificialisation des terres par l'agriculture intensive et la gestion industrielle des forêts avec leur lot d'intrants chimiques, pesticides, herbicides, etc., qui stérilisent nos terres, polluent les nappes phréatiques. Mais nous y reviendrons prochainement.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin.
Et on a bien grandi, on n'est plus des gamins.
Ok.
Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose je crois bien.
Ok.
Droit dans le mur, on continue de foncer. Et la seule différence maintenant, c'est qu'on le sait. Je vous en veux, vous qui étiez avant nous,
okay.
D'avoir pas fait grand chose pour éviter le trou. On cherche des excuses quand la terre se désole. Mais en creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole. Je mets un masque pour aller à la mer,
okay.
J'enfile un casque VR pour prendre l'air,
okay.
On fonce dans le fossé à pas de géant. On dit que l'herbe est plus verte sur les écrans.
Un boomerang dans la face comme un déferlement. Les vieilles erreurs, les emballages que nous ramène le vent.
Les trop tard quand les taux se resserrent.
Si c'est pas rien de le dire,
alors c'est quoi de le faire? Pour les jeunes, je crois que je suis déjà vieux.
À la fin, qui restera debout?
On espère que la génération future fera mieux.
Mais celle d'avant
espérait pareil de nous.
Il faut que tu respires.
Donnez-moi un peu d'air.
C'est demain que tout empire.
Et demain c'est hier.
Tu vas pas mourir de rire.
J'ai pas compris la blague.
Et c'est pas rien de le dire.
Alors je le rappe.
Il faut que tu respires.
Mais j'ai fermé la fenêtre.
Et ça c'est rien de le dire.
Tout bas dans la tête.
Tu vas pas mourir de rire.
Je comprendrai peut-être.
Et c'est pas rien de le dire.
Ah, t'avais raison.
Il faut que tu respires.
Donnez-moi un peu d'air.
C'est demain que tout empire.
Et demain c'est hier.
Tu vas pas mourir de rire.
J'ai pas compris la blague.
Et ça c'est rien de le dire.
Alors je le rappe.
Il faut que tu respires.
Et j'ai fermé la fenêtre.
Il faut que tu respires.
Tout bas dans la tête.
Il faut que tu respires.
Je comprendrai peut-être.
Il faut que tu respires.
Ah, t'avais raison.
Le béton et le bitume imperméabilisent et altèrent durablement toutes les fonctions des sols, qu'elles soient biologiques, hydriques ou climatiques. Et l'urbanisation galopante fragmente nos paysages et détruit les habitats de nombreux écosystèmes. La loi Climat et Résilience, promulguée le 22 août 2021, avec son objectif ZAN, zéro artificialisation nette, avait le mérite de fixer un cadre restrictif et contraignant visant à limiter l'artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers à 50% d'ici 2031 pour arriver à un solde nul entre artificialisation et renaturation en 2050. Malheureusement, ce cadre est de plus en plus assoupli et ouvre la voie à plusieurs dérogations, notamment pour des projets dits d'intérêt majeur d'envergure nationale ou européenne. Au Sénat, de nombreuses voix remettent même en cause l'objectif ZAN, ce qui laisse présager encore bien d'autres allègements. En France, les terres agricoles sont souvent peu coûteuses et le prix des constructions neuves relativement peu élevé comparé aux réhabilitations de logements vacants. Selon France Nature Environnement, les dotations et aides de l'État vers les collectivités ne sont pas modulées en fonction des efforts de sobriété qu'elles réalisent. Ce qui signifie que, de fait, les communes ne sont pas encouragées à œuvrer pour la sobriété foncière et la densification. L'Office français de la biodiversité estime entre 20 000 et 30 000 hectares les espaces naturels, agricoles et forestiers consommés en France chaque année. Pour vous donner une idée, environ 10 fois la taille de la ville de Sète chaque année et à un rythme 4 fois plus important que celui de l'augmentation de la population. Sur notre territoire héraultais, de nombreuses associations et collectifs fleurissent et se dressent contre des projets d'artificialisation néfastes pour l'environnement. Prenons quelques exemples. Le collectif pour un autre projet Saint-Christol dans le Picénois, qui se bat contre un projet de ZAC, zone d'aménagement concerté, sur 24 hectares. Le collectif SOS Oulala, toujours en lutte contre le lien chantier du périphérique au nord de Montpellier, le collectif Veille au Grain, qui lutte contre la cession du forage de la Castillonne au gérant de l'eau en bouteille Alma, avec implantation d'une usine d'embouteillage de 15 000 m2. Le collectif Banc Public A7, en lutte depuis des années contre la création d'un parking souterrain sur la place Aristide-Briand, et aussi Maréchon à Sablassou, à Castelnau-le-Lez, dont nous avons parlé sur RPH le mois dernier. Plus près de nous, à une plus petite échelle, dans un village qui m'est cher, Montpérou, l'association APVM 34, dont je reçois ce jour deux représentantes, Viviane et Laurence, lutte contre un projet de zone d'aménagement concerté, la ZAC Les Prés de la 10. Bonjour Laurence.
Bonjour Corinne.
Bonjour Viviane.
Bonjour Corinne.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, nous présenter votre association ?
Alors oui, l'association collégiale Agir pour le vivant, donc APVM à Montpérou, qui regroupe une centaine d'adhérents, s'est constituée en 2022. Elle est née de la lutte nous opposant au projet d'une ZAC, donc une zone d'aménagement concertée, qui prévoit 60 logements, maisons, routes, parkings, ronds-points et aménagements divers. Malgré la révision de la surface de 8 à 3 hectares suite à la décision du SCOT, du schéma de cohérence du territoire, nous estimons toujours que cette ZAC n'a pas lieu d'être et nous disons que d'autres alternatives sont possibles. Ce projet, nous le contestons pour plusieurs raisons. D'ailleurs, une procédure juridique est en cours.
Oui, et bon, cette lutte contre la ZAC semble vous tenir vraiment à cœur. Est-ce le seul projet de votre association ? Alors, nous allons y revenir. Hein.
L'association Agir pour le vivant, elle a pour vocation d'agir pour le vivant, c'est-à-dire protéger la biodiversité existante, lutter contre la pollution, contre l'artificialisation des sols, et aussi conserver le patrimoine historique du village, l'organisation d'événements, d'animation, et puis aussi défendre la possibilité de pouvoir participer au projet du village de façon démocratique, si c'est possible.
Oui, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Ben, on trouve que la façon dont ce projet est mené n'est pas vraiment démocratique. Il y a déjà eu une enquête auprès de la population pour savoir ce que pensait la population de ce projet et que ça s'est avéré que la majorité d'entre eux étaient contre le projet. Donc on a demandé à la municipalité de faire une enquête générale sur le village pour avoir l'avis du village qui a été refusé. On a demandé un référendum qui a été rejeté. On a une médiation juridique qui a échoué. Et puis, il y a eu la dernière concertation qui était en août-septembre, là, récemment, très récemment, organisée pendant les vacances et la rentrée scolaire, donc quand personne n'est disponible. Et pour mener à bien cette concertation, la mairie a eu besoin de faire appel à des médiateurs, alors qu'il y avait à peine une centaine de personnes qui ont assisté à la réunion d'information qui a été prévue même pas 15 jours avant la fin de la concertation. Bon. En plus, on n'a pas eu aucun accès à des plans qui étaient visibles. Donc en fait, la plupart des gens n'ont toujours pas compris qu'il y avait ce projet de ZAC à Montpérou.
L'information n'était donc vraiment pas claire du côté de la municipalité en regard des villageois, c'est ce que
pas
vous
du tout
entendez
clair,
hein. Oui, c'est en gros, c'est ça, les réunions publiques, les conseils municipaux ne mentionnent pas et rejettent systématiquement les avis contraires.
D'ailleurs, à la concertation, il y a eu seulement 50 commentaires déposés ou questionnements. Et parmi cette cinquantaine d'interventions, il y en a eu une ou deux qui ont posé des questions. Toutes les autres étaient franchement défavorables. C'était clairement défavorable au projet.
Et en fait, dans ces concertations, l'avis de la population est pris en compte ?
Ben pas du tout. C'est comme si on n'avait rien dit du tout. En fait, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'argument en défaveur du projet.
Oui. Et... Oui,
et dans les modes de communication, d'ailleurs, oui. Les conseillers de l'opposition, qui sont au nombre de deux, et tous les opposants, comme nous, hein, comme notre association, mais autres aussi, sont traités un peu comme des ignares, où on ne comprend rien, où on est inconscient, où on est des écolos de bas étage. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'au niveau démocratique, c'est un peu difficile à avaler, quoi.
Laurence, je sais que cette friche te tient vraiment à cœur. Est-ce que tu peux nous en expliquer les raisons, peut-être un petit brin d'histoire de ce qu'elle a été et de ce qu'elle est actuellement, quoi.
Les prés de la 10, ils sont devant ma porte, hein, et c'est d'accord. Toute l'histoire de Montpérou. Montpérou, c'est un village très très ancien, on a des vestiges depuis les Celtes, les Romains, les Visigoths. Il y a des traces partout de l'histoire de Montpérou, qui au départ était un tout petit village, des petits hameaux qui étaient dispersés, et puis qui se sont petit à petit agglomérés. La grande richesse de Montpérou, ça a été surtout bien après le Moyen-Âge, 17e, 18e siècle, grâce au commerce, hein, puisque c'était une voie d'accès entre la mer et puis le centre de la France, et qu'il fallait passer par là pour pouvoir accéder de l'un à l'autre. Donc il y a eu beaucoup de transits qui se sont faits avec du sel, de l'huile d'olive, avec tous les produits qu'on pouvait avoir en Méditerranée, et dans l'autre sens, des peaux, des tissus, des céréales qui venaient du centre de la France. Et puis aussi les épices, tout ce qui venait de Marseille. Donc, le passage à Montpérou, tous les transports se faisaient avec des animaux, des mules en particulier. Et on a compté jusqu'à 400 mules, mulets à Montpérou. Et jusqu'à 1300 animaux en tout, des troupeaux, des moutons.
C'était des troupeaux, enfin, qui j'allais dire stationnés, c'est un terme qui ne correspond pas à l'époque, mais qui étaient parqués dans cette friche ou...
Alors, pour nourrir tous ces animaux, il fallait bien sûr du foin, qui était donc les prés de la 10. C'est pour ça que ça s'appelle les prés de la 10. Et donc, une terre agricole qui est riche et surtout qui reste humide, parce que le terrain est en contrebas du village, et quand il pleut, reçoit l'eau du vieux village, de toute la rue de la 10. Ça s'écoule à cet endroit-là. Et le sol est spongieux, ce qui fait qu'il est humide pratiquement toute l'année. Et donc, il y a encore beaucoup de traces. Il y a un réservoir d'eau, il y a des canaux, il y a des puits.
Oui, c'est un trésor, ça, à l'heure actuelle.
Oui, et ça a été jusque... Il y a des gens du village qui disent qu'ils voyaient des chevaux encore dans les prés de la 10 quand ils étaient petits. Alors, actuellement, le commerce s'étant écroulé une fois que la voie Montpellier-Lodève-Millau a été mise en place, le commerce a été plus ou moins arrêté. Et c'est à partir seulement de ce moment-là que s'est développée l'activité viticole, c'est-à-dire début du XXe siècle. Et donc, ils ont commencé à mettre des vignes partout. Et actuellement, autour de Montpérou, il n'y a plus que des vignes et que quelques parties de terres agricoles. Actuellement, on a 35 parcelles avec une vingtaine de propriétaires. Et on trouve des petites olivettes, des vieilles vignes, etc. Et aussi des potagers. Il y a eu des potagers, encore actuellement, il y a encore un potager qui est sur cet endroit. Alors, on ne comprend pas pourquoi, avec une terre de cette richesse en biodiversité, parce qu'il y a de tout sur cet endroit, et c'est magnifique, c'est très très beau, il y a eu deux dispenses d'impact environnemental. La dernière au mois d'août, alors qu'il n'y a jamais eu aucune étude sérieuse de fait à cet endroit-là.
Les études environnementales ne sont pas obligatoires avant tout chantier ?
Alors, ça a été fait pour le PLU, mais qui concernait tout le village entier, pas spécifiquement cette zone-là, qui date de 2017, donc depuis, ça a changé.
Ok. Et est-ce qu'il y a un réel besoin sur Montpérou je crois que Montpérou, c'est environ 1380-1400 habitants par là. Il y a un grand besoin de logement ? Rapidement, parce que nous touchons la fin de cette émission.
Alors, non. Au niveau des besoins de logement, non, puisque nous-mêmes, on a recensé 90 logements existants dans les vieux murs du village qui demandent qu'à être rénovés. Voilà. Ensuite, le PLU démontre qu'il va y avoir encore d'autres terrains constructibles, et des routes et des aménagements qui sont déjà en place avec les réseaux. Et
il y a d'autres projets en cours, donc.
Il y a d'autres projets déjà autres que celui-ci, hein, sur plusieurs hectares à Montpérou. Voilà. D'accord. Et nous, on estime aussi qu'en matière de logement, les logements sociaux, puisqu'il est prévu dans cette zone des logements sociaux, ne devraient pas être regroupés sur une zone à l'entrée du village, mais plutôt à l'intérieur du village.
C'est une ZAC qui regroupera que des logements sociaux à cet endroit-là ?
Pas que, mais plus d'une dizaine, voilà.
D'accord. Et tous au même endroit, donc.
Regroupés sur cette zone-là.
Le projet, en fait, c'est une rue, une rue en plus dans le village, avec 60 petits logements, des maisons cubes, d'accord, alignées les unes à côté des autres.
Oui, un peu ce qu'on fait dans tous les lotissements alentours, quoi.
Voilà. Dans un endroit inondable, alors qu'on a quand même un gros problème d'eau aussi à Montpérou. Hein, la source a été arrêtée pendant 8 mois.
En 2023, hein.
Donc on a vite oublié la sécheresse.
Avez-vous quelques idées ou solutions à suggérer ?
Oui, ben notre association demande l'annulation définitive du projet de ZAC, la protection des terres agricoles qui doivent rester au service du village selon nous, dans un but nourricier essentiellement, la rénovation de l'ancien, et s'il devait y avoir projet sur des terrains de près de la 10, ça devrait être des projets collectifs avec des jardins partagés pour éventuellement cantine et autres portages de repas, compost, poulailler, etc. D'autant que...
Oui, pour l'instant, ce projet, il s'agit juste de vendre des terres agricoles, les dernières terres agricoles du village, à un aménageur pour récupérer une somme. Et cet aménageur va décider absolument de tout, à part que c'est un village rue avec des maisons cubes, y compris l'expropriation des propriétaires qui ne sont pas d'accord.
C'est-à-dire, la municipalité n'intervient pas auprès de l'aménageur pour donner des consignes?
Il y aura un cahier des charges, mais minimal, ça sera que l'aspect extérieur des bâtiments et puis les places et tout ça. Bon. Ouais. Et en particulier, nous sommes complètement contre un rond-point sur les actuels potagers.
Je vous remercie. Dans l'esprit des gens, une friche a souvent une connotation négative, car synonyme de terrain abandonné, laissé à lui-même. Il faut savoir que les friches ont un rôle très largement sous-estimé. En effet, ces écosystèmes sont précieux et riches en biodiversité et remplissent des fonctions écologiques non négligeables, souvent peuplées de plantes herbacées pionnières et d'une faune caractéristique à ces lieux. On se retrouve donc devant un double discours sur les friches. Selon certains, elles sont à préserver et à valoriser comme réservoirs de biodiversité accueillant de multiples espèces, souvent inexistantes ailleurs, et aussi comme poumon vert dans la cité. Selon ses détracteurs, notamment les promoteurs ou les aménageurs, elles constituent un obstacle à la rentabilité de leurs projets, bien souvent synonyme d'artificialisation. Alors, à l'heure d'un réchauffement climatique indéniable, quel choix feriez-vous ? Un peu plus de béton ou un peu plus d'eau dans les sols ? Des villages accueillants et conviviaux ou des lotissements tous identiques où les habitants délaissent peu à peu les cœurs de village ? Un peu plus de routes, avec leur lot de camions et de pollution, ou un peu plus de forêts, de champs et d'oxygène. Le sol n'est rien de moins que l'origine du monde, déclare Marc-André Sellos. Et je pense qu'il serait peut-être grand temps d'adopter une attitude respectueuse qui préserve les sols de notre prédation. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous au mois prochain pour une nouvelle chronique. D'ici là, ouvrez les yeux et prenez soin de tout le vivant qui vous entoure, même sous vos pieds. Je vous remercie, Laurence et Viviane.
Merci.
Merci.
Merci de votre écoute. Au revoir.